Ce mois-ci, l'équipe des Grands Espaces a rencontré des chèvres. Mais pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit de chèvres urbaines habitant l'agglomération lyonnaise.
Des caprins dans la ville, c'est le titre de ce nouveau numéro des Grands Espaces.
Les Grands Espaces.
Rémi Desmouillères,
Thibaut Sardier,
avec les géographes Camille Hochedé et Julie Le Gall.
Autant vous le dire d'emblée, nous n'avons pas rencontré ces chèvres en plein cœur de Lyon, et même pas aux eaux du parc de la Tête d'Or. C'est dans le petit village de Saint-Laurent-de-Vaux, à 30 minutes du centre-ville, que nous les avons découvertes.
Ce petit village paisible, aux allures de campagne, appartient à la région urbaine lyonnaise, ou plus précisément, à ce qu'on appelle l'aire urbaine lyonnaise. Derrière ce terme un peu compliqué se cache la volonté de la part des statisticiens de l'INSEE de tracer de nouvelles limites aux villes, non plus du point de vue des constructions et des paysages, plus ou moins bétonnés, mais du point de vue des pratiques des habitants, notamment leur déplacement quotidien entre domicile et travail.
Alors on va essayer de faire simple. En fait, une aire urbaine, c'est d'abord un pôle urbain, c'est-à-dire une ville qui concentre au moins 10 000 emplois, et ensuite, autour du pôle urbain, une couronne périurbaine constituée par l'ensemble des communes dont au moins 40% de la population active travaille dans le pôle urbain. Alors avec une telle définition, les limites des villes sont repoussées très loin des centres, à tel point qu'on pourrait croire que les espaces ruraux n'existent plus. En d'autres termes, pour les géographes, ça veut dire que la géographie rurale is dead.
Et pourtant, la ville du 21e siècle, c'est aussi la ville durable, le désir de nature ou encore la volonté de consommer des fruits et légumes qui ont été cultivés près de chez soi. Autrement dit, la ruralité et l'agriculture n'ont peut-être pas tout à fait déserté ces espaces périurbains qui semblent pourtant les dévorer.
Alors pour y voir plus clair, nous avons parcouru le périurbain de l'Ouest lyonnais en compagnie de deux géographes enseignantes à l'ENS de Lyon qui sont spécialistes de cette interface entre l'urbain et le rural. La première, c'est Camille Hochedé. Elle a soutenu fin 2012 une thèse sur les circuits agricoles courts dans la région de Stockholm. La seconde, Julie Le Gall, a quant à elle travaillé lors de sa thèse sur les circuits de commercialisation des fruits et légumes dans l'agglomération de Buenos Aires.
Et pour nous accompagner, elles ont fait appel à leur amie Myriam Laval, qui est professeure d'histoire-géographie dans l'agglomération de Lyon, mais qui passe le plus clair de son temps libre dans la ferme de sa sœur, qui produit du fromage de chèvre. Et c'est elle qui nous a décrit, une fois passé le tunnel de Fourvière, l'itinéraire que nous allons suivre.
C'est un itinéraire plein ouest, voire un tout petit peu nord-ouest. Là, on va vraiment faire le chemin de manière graduée du centre-ville vers la banlieue pavillonnaire. Et c'est quasiment en ligne droite. Si on prenait une carte à vol d'oiseau, on va faire une ligne droite de 30 km à peu près. Donc en partant du centre-ville de Lyon, puis Tassin, donc où il y a encore pas mal d'immeubles, etc. Ensuite Craponne, qui là est vraiment beaucoup plus pavillonnaire, qui a cette vocation-là en tout cas. Et finalement Vaugneray, puis Saint-Laurent-de-Vaux, qui est là pour le coup l'espace rural le plus proche de Lyon.
Vous l'avez entendu, c'est donc en voiture que commence notre périple. Après Fourvière, nous traversons Tassin-la-Demi-Lune et Francheville, des communes de banlieue avec leurs grandes barres d'immeubles et leurs maisons individuelles, le tout formant un espace d'urbanisation continue.
Et seulement quelques minutes plus tard, nous arrivons à Craponne, à la limite du pôle urbain, où on aperçoit déjà, derrière les bâtiments et autres zones d'activité massées au bord de la route, les premières parcelles agricoles.
En fait, l'Ouest lyonnais reste encore une grande réserve foncière.
Oui, alors à l'entrée de Craponne, cette réserve foncière, elle a aussi été pas mal utilisée là depuis 5 ans aussi, avec cet étalement périurbain, avec cette croissance de la population de ce côté-là, parce que c'est assez attractif du fait du niveau de vie. L'implantation de bâtiments commerciaux type le Roi Merlin, type... je crois que c'est Intersport qui est un peu plus haut. Voilà, des espaces commerciaux un peu plus vastes.
Et puis ils ont aussi créé des toutes petites zones commerciales avec des commerces de proximité, parce que si dans les derniers 4 ans tout ça s'est peuplé, il a fallu créer des boulangeries, des teintureries. Oui. Là à côté on voit...
Alors ça, ce sont des bâtiments rénovés, la boulangerie là en question. Avant, c'était un magasin de meubles et de carrelage et autres. Et en fait, on sent que l'avancée du... l'avancée de la ville se fait aussi avec l'avancée des commerces, puisque maintenant que cet espace-là est bâti et construit, ces magasins qui ont une vocation de fourniture de matériaux de construction disparaissent au profit de ces petites ces services quotidiens comme voilà buanderie, laverie.
Ce qui est intéressant, c'est aussi que c'est des commerces qui sont pensés en fonction de l'accessibilité en voiture.
Oui.
Notamment, je pense à la boulangerie, et on voit beaucoup se développer des boulangeries comme ça dans des zones commerciales au milieu de nulle part. Donc, c'est pas le cas ici, mais il y a de plus en plus de ce type de boulangerie et qui sont sur la route. Donc, c'est aussi pour les gens qui sont de passage pour aller plus loin. Et ça, c'est vraiment pensé en fonction de la voiture.
Et bien sûr, le McDo, hein, pensé en fonction de la voiture.
Le McDo qui s'est installé il y a 3 ans, même pas, je crois.
Donc ce sont les grandes routes comme celles qu'on prend et qu'on suit depuis qu'on a quitté Lyon qui en fait concentrent des commerces de différents types. Les nouveaux commerces pour la population qui vient de s'installer ou alors des zones commerciales plus vastes pour les Lyonnais.
Si on s'éloigne un peu de cette route centrale, on trouve énormément moins de commerces. Je ne parlerai pas de village-rue, mais ça s'en rapproche en termes de dynamique économique. On fonctionne vraiment sur un axe principal, le reste étant plutôt voué à des garages automobiles ou des choses comme ça qui ont un moindre impact économique, en tout cas pour ces espaces.
En quittant Craponne, on se croit cette fois pleinement à la campagne. Au bord de la route, plus de maisons, mais des haies et des champs. Et pourtant, nous sommes encore statistiquement dans la couronne périurbaine de Lyon. Nous voici à 25 minutes de Lyon, dans la commune de Vaugneray, joli petit village, pourtant entouré par des lotissements, où nous faisons un premier arrêt.
Si on prend le paysage de droite à gauche, avec vraiment toute l'amplitude qu'on peut avoir, on a les terres agricoles, donc des coteaux du Lyonnais, ensuite des serres et tunnels qui servent à l'agriculture maraîchère, plus ou moins pour approvisionner Lyon. Le grand toit rouge qu'on voit, c'est le bâtiment d'un élevage de poules pour faire des œufs qu'on retrouve dans plusieurs super-rues de Lyon. Ensuite, quand on remonte la colline vers Vaugneray, on repère encore des maisons individuelles. Les lotissements donc, qui sont tout neufs avec des maisons qui sont relativement récentes. Sur certaines, on voit d'ailleurs des panneaux solaires. Ensuite, des bâtiments donc, de plusieurs étages, 4, 5, 6 étages, qui ont été construits dernièrement et qui ont vocation à éviter l'étalement urbain de ces pavillons qui se multiplient, le collège de Vaugneray. Et ensuite, l'ancien village, dont on voit bien que c'est l'ancien village parce qu'il est encore, il y a beaucoup de verdure, etc. Et l'étalement du village qui s'est fait il y a 20-30 ans, qui s'était fait plutôt vers le bas du village, aujourd'hui commence à conquérir les collines de l'autre côté du village. Et donc, si vous remarquez, les bâtiments qui sont encore en construction sont des types de bâtiments 4-5 étages et ne sont plus des maisons pavillonnaires. Donc il y a vraiment une idée de limiter quand même la périurbanisation de ce côté-là.
On notice aussi qu'il y a une petite odeur de campagne.
Alors, est-ce qu'on est à la campagne, justement ?
Bah pour les habitants, en particulier ceux qui ont construit des nouvelles maisons, on est totalement à la campagne, puisque eux, s'ils sont venus s'installer ici, s'ils ont acheté un appartement sur plan, c'est pour avoir la vue sur les champs et pouvoir rentrer le soir en disant « Ah ben, je me pose et je vais à la campagne ». Ou quand ils ont voulu acheter leur petite maison dans le lotissement, c'était pour avoir leur jardin, leur chien, que les enfants puissent être élevés dans la nature. Donc, pour les habitants d'ici, on est à la campagne. Pour un agriculteur, on n'y est plus vraiment.
Non, et puis c'est vraiment particulier. Les gens du pays, on va dire entre guillemets, ceux qui sont nés ici, considèrent que soit on habite à la campagne, soit on habite au village. Et donc déjà, habiter au village, habiter une maison ou un appartement du village, ce n'est plus être à la campagne. Alors que pour un citadin lyonnais qui viendrait habiter ici, c'est vrai qu'il est vraiment à la campagne.
Et puis si on prend en compte les rythmes de vie de ces nouveaux habitants,
finalement, ils fréquentent beaucoup la ville et notamment la grande ville du secteur qui est Lyon.
Oui, donc là, on retombe sur la définition statistique de l'INSEE où on n'est pas à la campagne, on est dans le périurbain puisqu'il y a une catégorie statistique depuis 1996 par l'INSEE qui définit donc les communes périurbaines par ses critères de mobilité et par des critères économiques. Donc on est, pour l'INSEE, on n'est pas à la campagne. Par contre, si on prend d'un point de vue paysager, bon, il y a ces lotissements, il y a cette densification du noyau, de l'ancien noyau villageois, mais il y a quand même des champs autour. Donc d'un point de vue paysager, il y a quand même des signes de ruralité qui plaident pour quand même un espace rural. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les pratiques, il y a un brouillage de plus en plus important entre ce qui est rural, ce qui est urbain, mais dans les représentations, il y a vraiment une opposition entre les deux, puisque ces personnes viennent s'installer parce qu'elles ont un désir de campagne, un désir de rural, un désir de vivre dans une communauté, dans un milieu local. Hein. Là, il y a l'idée de localité, d'appartenir à une communauté.
À la campagne, on dit qu'on voudrait rester, quitter Paris, le bruit, le stress et la pollution. À la campagne, c'est la fête aux clichés, la qualité de vie et le rythme des saisons. À la campagne, on se prête des bulles quand on traîne sur la terrasse.
Quel rôle joue l'activité agricole dans cette représentation paysagère de la campagne ?
Alors, le rôle de l'agriculture, il est très fort et en même temps, c'est très ambivalent parce qu'on vient chercher de la campagne. On a envie de voir des champs avec des vaches sous ses fenêtres quand on se réveille le matin parce qu'on trouve ça très beau dans le catalogue. Et en fait, concrètement, quand on arrive...
On ne veut pas entendre le tracteur.
Et on ne veut pas
sentir l'odeur des vaches.
Voilà, on voudrait de l'agriculture pour le paysage parce qu'on trouve que ça fait agricole, ça fait campagne. On a envie d'aller acheter ses fromages ou son litre de lait ou ses œufs à la ferme du coin. Et en même temps, on n'a pas envie d'être dérangé le samedi après-midi en plein barbecue parce que l'agriculteur, pour qui le samedi est une journée de travail, étend son fumier ou son lisier dans les parcelles voisines.
En fait, de plus en plus, dans ces espaces périurbains, l'agriculture, elle a non seulement une fonction productive, qui est la base de la fonction de la production agricole, mais elle a aussi d'autres fonctions, comme le maintien d'espaces de nature et aussi le maintien de paysages. Pardon. Et cette fonction paysagère, elle est de plus en plus prise en compte dans les documents d'aménagement, notamment les intercommunalités, puisqu'on recherche vraiment un cadre de vie. Et l'agriculture, elle participe au maintien d'un cadre de vie agréable pour justement essayer de réguler, de prévenir ces incidents entre nouveaux résidents et puis entre agriculteurs, parce que parfois c'est des activités qui sont des fonctions qui sont difficilement compatibles.
Ici, on est quand même dans un village, ou ancien village très spécifique. On est au bord d'une route qui va directement sur Lyon. Donc enfin, on pourrait se dire que ces lotissements, ils sont là justement pour la proximité à Lyon. Donc est-ce qu'on a des degrés de périurbain en fonction de la distance au centre-ville ?
Alors en fait, c'est plus compliqué que ça. Il est certain qu'il y a différents types de périurbains. Donc aujourd'hui, effectivement, on ne parle plus de rural et de ville. On a créé une troisième catégorie d'espace que certains appellent le tiers-espace, qu'on peut tout simplement appeler l'espace périurbain. Mais ce qui a été montré ces dernières années, c'est que l'espace périurbain, il est extrêmement divers et que c'est trop facile de réduire le périurbain à un centre commercial, un lotissement en forme d'escargot et un petit village qui a été vaguement remodifié pour plaire
aux désirateurs. En forme d'escargot parce que la route souvent...
Voilà, parce que les routes ou spaghettis ou escargot, parce que les routes sont assez sinueuses. Effectivement, ça c'est emblématique du périurbain, mais en réalité... Il y a différentes formes de périurbain et ces formes-là, elles ne dépendent pas uniquement de la distance à la ville. Ça dépend aussi des catégories socio-spatiales des habitants, sociodémographiques pardon, des habitants qui s'installent dans le périurbain. S'ils sont riches, s'ils sont moins riches, s'ils sont pas très riches, ils ne vont pas construire les mêmes maisons, ils ne vont pas pouvoir s'installer dans les mêmes communes et les communes elles-mêmes font aussi différentes politiques pour attirer telle ou telle population. Donc il y a des communes du périurbain lyonnais qui n'ont pas beaucoup de quotas d'habitat social et donc qui sont plutôt dans un résidentiel pavillonnaire individuel. Donc il y a des générations de périurbains. Les maisons des années 70 ne sont pas les mêmes que les maisons des années 80, 90, 2000. Ensuite, il y a des types de périurbains en fonction des moyens des personnes et puis des types de périurbains en fonction du choix des politiques des communes.
Ce qui est aussi un élément déterminant, c'est que dans Lyon, le foncier coûte plus cher qu'ici.
Oui, bien sûr, ça c'est un critère de distance du coup qui joue d'éloignement à la ville, mais on a tendance aussi à beaucoup à voir le périurbain comme le résultat d'un mouvement centrifuge depuis le centre-ville. Or, il y a aussi beaucoup d'autres dynamiques, et notamment des gens du rural qui viennent s'installer ici, donc il ne faut pas résumer ça à un déversoir de la ville. Il y a aussi les dynamiques inverses qui jouent beaucoup. Et donc, c'est pour ça que c'est important de repartir du périurbain et pas partir du centre-ville uniquement pour expliquer les dynamiques et la diversité, l'hétérogénéité des espaces périurbains.
Et pourquoi ils viennent s'installer, ces ruraux ?
Je pense qu'il y a un critère de proximité, d'une recherche de proximité avec la ville, de plus grande proximité. Ça peut être un premier élément d'explication. De se rapprocher de la ville tout en conservant un style de vie rural.
Il y a aussi quand même à prendre en compte tous les enfants d'agriculteurs ou qui sont issus de ce monde rural qui se destineraient à des professions comme l'esthétique, la coiffure ou autres qui seront des services à la personne et qui du coup vont venir s'installer plutôt au village. Sans vouloir s'éloigner vraiment de leur racines, leur lieu de naissance, sans descendre pour autant à la grande ville que représente Lyon pour eux lorsqu'ils sont nés dans le rural, dans l'espace rural.
Donc le périurbain, d'une certaine manière, est aussi un périrural.
Oui,
totalement.
Totalement.
Cette vision-là de dire que... il se passe aussi des choses depuis l'extérieur de la ville vers l'intérieur de la ville. C'est assez peu diffusé, ce sont surtout des ruralistes qui en parlent. Pendant très longtemps, on a parlé du périurbain uniquement depuis la ville et dans tous les pays du monde.
D'ailleurs, on n'employait pas le mot de périurbain dans les années 70, c'était plutôt le mot de rurbain. On parlait d'urbanisation des campagnes. Donc le mot n'existait pas, c'est vraiment à partir des années 80 et puis la décennie 90 qui a vraiment, où les études sur le périurbain ont explosé, qui a vraiment eu une vision un peu différente d'autonomisation des espaces périurbains par rapport au centre-ville.
Alors là on est grosso modo à 25 minutes de Lyon en voiture, on va continuer la route pour s'éloigner encore plus de Lyon. À quoi va ressembler le paysage en deux mots ?
Des forêts et des champs ?
Eh bien, allons-y.
Pour les habitants d'ici, c'est Vaugnerais, c'est un peu le bout de la ville, l'extrémité de la ville. Et quand on sort de Vaugnerais, on sort de la ville et on rentre vraiment dans la campagne. Et donc, quand des gens viennent d'assez loin, ils ont l'impression de commencer à rentrer dans le bout du monde quand ils commencent à rentrer sur ces routes sinueuses, bordé uniquement de champs et de tunnels ou de bois.
Donc ici on est dans le hameau central de Saint-Laurent-de-Vaux.
On est au village même de Saint-Laurent-de-Vaux. Donc les anciens bâtiments, les bâtiments les plus anciens sont autour de nous. L'école, l'église, le café traditionnel et la mairie. Donc ces bâtiments-là n'ont quasiment pas évolué depuis la fondation du village, quasiment. Par contre, autour se sont greffés assez rapidement depuis, on va dire, une trentaine d'années, la plupart des autres maisons que vous voyez, donc, dont on reconnaît d'ailleurs qu'elles sont relativement récentes, à l'exception du haut du village là-haut, qui est en fait une ancienne exploitation. On a des granges, des greniers qui ont été remodelés en habitation, dont on ne reconnaît pas la fonction ancienne aujourd'hui.
Mais ce qui semble changer par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on ne voit pas ici de lotissement. On a des constructions, mais elles semblent plus individuelles.
Alors oui, pour la simple raison qu'en fait, on est déjà à flanc de colline, donc on ne peut plus avoir la même impression de lotissement au niveau paysager. L'autre chose qui est importante, c'est que les lots qui ont été divisés sont des lots beaucoup moins réguliers. Néanmoins, le processus est le même, en fait. La deuxième chose qui change, ici, on est dans un périurbain qui va être plus un rurbain, comme vous disiez, donc où les citadins qui viennent s'installer participent beaucoup plus à l'activité du village, viennent voter ici, mettre leurs enfants à l'école, alors que pour le Vaugnerais, c'est assez significatif. Le fonctionnement, il est beaucoup plus axé sur Lyon, alors qu'ici, le fonctionnement, il va être plus axé sur le village lui-même.
À en croire Myriam, les citadins qui s'installent à Saint-Laurent-de-Vaux, commune plus petite et plus distante de Lyon, s'impliquent plus dans la vie locale que les nouveaux habitants de Vaugnerais. Et c'est alors que le maire sortant de la mairie devant laquelle nous discutions est venu nous donner son avis d'élu sur la question.
Et vous diriez qu'il a évolué comment le village de Saint-Laurent ?
En habitant, on a multiplié par 2,5 comme les trois quarts du coin. Enfin, on était moins de 100 il y a 35 ans. On a 260, donc multiplié par 2,5. Enfin, il y a 50 ans, il y avait 12, 13, 14 fermes, je ne sais pas combien. Donc tout le monde travaillait ici. En gros, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, il y en a 95% qui travaillent comme de partout ailleurs. Hein.
Et quelles conséquences ça a sur la vie du village ?
Avant, les gens restaient plus ici parce qu'ils partaient moins, donc forcément ils se voyaient plus autour de l'école du centre-bourg. Maintenant, comme les gens vont tous à Lyon, ils ont moins besoin de contact chez nous, donc ça change complètement. On vient un village dortoir, forcément. On a eu fait une fête avant l'époque pour. Alors c'était un peu paroisse à l'époque, hein, pour réparer l'église notamment, il y a 40 ans. Il y avait 100 habitants, il y en avait 95 qui participaient. Maintenant, 250. On fait une fête de l'école au mois de juin, il n'y en a qu'une dans l'année. Il n'y a même pas tous les parents d'élèves qui viennent.
Ah si, en activité économique, il y a un groupe de nounous très actif ici.
C'est peut-être pour ça qu'on envoie l'école, du coup, ouais.
Oui, voilà. C'est...
Parce qu'on a, du coup, on a sur 43 élèves, je crois qu'il y en a 12 ou 13 de venir.
Ouais.
Parce qu'ils sont gardés là et du coup, ils vont à l'école.
Mais c'est plus facile le matin de déposer les enfants avant d'aller travailler loin.
Puis des nounous qui sont... extensible à souhait parce qu'il y en a qui commencent à 6h jusqu'à 8h du soir, donc ça c'est ça court pas les rues, donc effectivement il y en a qui...
Et puis elles sont toutes proches, il y en a une au village en haut, enfin il y en a plusieurs au village en haut,
même
y en
des
a
gens qui viennent
ici,
de venir avant, qui viennent les amener leurs gamins parce que justement elles sont hyper flexibles.
Je trouve qu'au niveau du village, quand tu dis village dortoir, c'est un peu le mot pour certaines parties du village, c'est clair. Et même entre les habitants, il n'y a pas de communauté villageoise dans ce type de village.
Mais je pense qu'honnêtement, plus on se rapproche de Lyon et plus on y ressent, parce que moi, je vois, Vaugnerais, ils font des fêtes, t'as pas connu ça. Il y a quoi ? Il y a 10% qui participent à la population vaugnerais.
C'est vrai qu'il y a des pratiques qui choquent quand on voit des nouvelles constructions avec des grillages autour de la maison, etc. C'est, pour des gens qui habitent le coin, c'est un peu... On se demande pourquoi ils viennent habiter à la campagne si c'est pour se barricader dans quelque chose, quoi. Quand c'est vraiment de la clôture en grillage simple.
Les gens, ils attendent du service de plus en plus. Le jour, il y avait de la neige, par exemple. Donc, les ordures ménagères ne sont pas passées. Ah, les ordures sont pas passées. Ben non, il y avait de la neige, ils sont pas passés. Mais ils vont passer quand ? Ben quand la neige aura fondu. Non mais.
Oui.
Mmh. S'il veut avoir du service et machin, ben il va habiter par Dieu, il aura tout, les ascenseurs, tout ce qu'il veut. Mais c'est comme ça. Voilà.
Et ben merci. Bonne
merci. Continuation.
Merci bien. Bon après-midi.
Si on reprend ce qu'il nous a dit, grosso modo, les périurbains viennent avec des réflexes d'urbains.
C'est ça, ouais, c'est ça. Et c'est ce qu'on disait sur les représentations tout à l'heure, qu'il y a l'idée d'habiter au village et qu'en même temps ils participent pas du tout, ils s'impliquent pas du tout à la vie, vu qu'ils partent le matin, ils rentrent le soir. Donc ils sont pas du tout impliqués dans la vie de la commune. Et c'est marrant, j'ai l'impression que cette commune, elle est un peu à la limite, mais que du coup ça la pénalise. Parce que certes, il y a des avantages d'habiter proche de la ville en termes d'économie, mais ça empêche le développement social de la commune, je dirais, puisqu'il parlait d'autres communes qui étaient plus loin, plus rurales, mais qui avaient une vraie vie de village où les gens se déplacent, alors qu'ici, c'est vraiment la charnière entre les deux, quoi. C'est vraiment très intéressant et qui fait que ça prend pas. Parce que les gens ne s'impliquent pas et c'est pas suffisamment gros pour avoir le développement de services, pour justifier qu'il y ait des grosses fêtes. Et c'est victime de la proximité avec la ville.
Mais c'est aussi le fait que le village ne peut pas construire autant, donc il n'y a pas aussi beaucoup de monde
de
qui vient. Voilà. Et donc derrière, il n'y a pas de commerce et il y a une espèce de moratoire sur le village tel qu'il est et point.
Enfin, Je pense qu'il y a aussi une question de mentalité de la part des personnes qui viennent s'installer. Ces personnes, elles viennent avec un désir de rural et de campagne pour le calme, pour etc. Mais absolument pas pour la vie associative que pourrait avoir un village. Et donc, sans ces personnes-là, le village aurait très certainement, avec moins d'habitants, une vie associative et une vie sociale plus intense qu'avec plus d'habitants, mais qui viennent d'ailleurs. Et tu posais la question du conseil municipal tout à l'heure. Sur le conseil municipal, il n'y a qu'un nouvel arrivant. Tous les autres sont des enfants du pays, entre guillemets.
Me font les vaches, les vaches font me. Elle broute, elle mange, elle mâche la pelouse. Et le soir, dans les prés, elle nous offre les bouses. Et puis, faut les rentrer pour prendre le bon lait. Les treilleuses sont branchées, c'est la fin de la journée.
Alors, on a entendu un petit peu qu'il était question d'agriculture, et bien parlons-en maintenant vraiment. Cette agriculture que les périurbains adulent pour ses paysages, mais fustigent pour ses nuisances. Nous sommes restés à Saint-Laurent, mais nous avons changé de hameau pour visiter la chèvrerie de la sœur de Myriam, dans laquelle cette dernière passe beaucoup de temps. Et elle nous explique comment fonctionne l'exploitation et quel rôle elle y joue.
Alors juste avant qu'on rentre, ici, on voit la fromagerie et on voit la salle de fabrication. Donc là, il y a tous ces moules sur les tables de fabrication. Il y a le tank dans lequel elle fabrique les tomes. Voilà, donc là c'est la fabrication, ensuite il y a les différentes pièces.
Donc les productions de l'exploitation, c'est exclusivement des fromages.
Pour ce qui est de la production ici, c'est que du lait de vache, que du lait de chèvre, pardon, transformé sur place. La première pièce, les premières vitres que vous avez vues à l'entrée, c'est le magasin. Donc très souvent, elle fait 3 permanences dans la semaine. Et c'est essentiellement des gens du coin qui viennent acheter. Elle espère un peu plus de fréquentation dans l'été, quand il y aura une activité de promenade un peu plus importante. Après, l'essentiel de la production, c'est pas au magasin qu'elle l'écoule, même si le magasin a une vocation de communication, d'information et puis de prise de contact avec les voisins. L'essentiel de sa clientèle, c'est une clientèle lyonnaise parce qu'elle approvisionne des Super U, une enseigne des Halles Bocuse et des restaurateurs ou cavistes sur Lyon. Donc elle fait une tournée par semaine d'une après-midi où elle livre toute sa production en ayant enregistré des commandes au fur et à mesure dans la semaine. On visite ?
Oui.
Voilà. Donc là, c'est le lot des chevrettes qui viennent d'arriver, qui ont mis bas cette année, celles-là, et donc qui sont les toutes jeunes chevrettes.
Quel est ton rôle dans cette exploitation ?
Alors, en tant que sœur de l'exploitante, j'y passe pas mal de temps pour les travaux, notamment quand il a fallu isoler tout le toit, par exemple. Vous imaginez le nombre de clous qu'on a pu planter. Ensuite, j'aide régulièrement pour les gros travaux, par exemple là, quand il a fallu faire les foins. Et ensuite, tous les week-ends, j'essaye de venir et de passer du temps ici. Exceptionnellement, quand elle veut partir en week-end ou en vacances, je suis en mesure de la remplacer, de faire son travail pendant qu'elle part en vacances. C'est l'avantage d'avoir régulièrement des vacances de professeur pour pouvoir aider ma sœur.
Parce que toi, tu habites à Lyon.
Oui.
Donc officiellement, c'est pas de la double activité, mais officieusement, ça y ressemble quand même pas mal.
Oui, officieusement, ça y ressemble quand même pas mal. Après, j'ai quand même un rôle assez modeste puisque je suis là les week-ends ou un jour comme ça par semaine. Après, c'est pour moi très important de venir ici et d'être là pour cette activité-là.
On a beaucoup parlé jusqu'ici de l'intérêt de la proximité de Lyon pour les périurbains qui peuvent facilement rejoindre la ville et habiter à la campagne. Je suppose que cette proximité, elle est aussi importante pour une exploitation comme celle-ci.
Le parti pris, c'est de valoriser au mieux une production. Et effectivement, le marché lyonnais est un marché en plein développement et qui est très consommateur de ce type de produit. Et l'offre est relativement inférieure à la demande, ce qui a permis, en un an, même pas de prospection, d'écouler tous les produits très très rapidement. Donc oui, effectivement, la proximité, elle est très importante parce que en une demi-après-midi, elle a pu faire sa livraison en ville sans avoir recours à un transporteur, ce genre de choses.
C'est typiquement, Camille, un circuit court.
C'est typiquement un circuit court, c'est-à-dire de la vente directe du producteur au consommateur, que ce soit vente au détail ou vente aux grandes surfaces. C'est donc la sœur de Myriam qui fait toute la chaîne elle-même de la production et qui s'assure de la commercialisation. Et ça, c'est typique des exploitations dans le périurbain qui développent de plus en plus ce genre de services qui sont forcément fortement rémunérateurs et qui sont aussi une attente des populations, d'avoir des produits de proximité, des produits de qualité, des produits locaux. Et donc, notamment dans l'Ouest lyonnais, il y a plusieurs marques, des labels qui se développent. Je pense à la marque Le Lyonnais Monts et Coteaux, qui est présente aussi sur les marchés, notamment pour les produits laitiers, les yaourts, et qui donc profite de cet engouement pour les produits locaux. Et là, c'est l'importance de l'origine. Hein. On a le nom qui est associé à un produit, et c'est ça qui, dans l'esprit du consommateur, fait que c'est un produit de qualité. Et ça, c'est une niche pour les agriculteurs, et c'est vraiment un marché qui est en fort développement, que ce genre de produit de proximité.
Et quand on disait qu'il y avait des dynamiques qui naissaient aussi depuis l'extérieur de la ville, et qu'elles étaient fondamentales, c'est ça aussi, en fait, qui naît de l'extérieur de la ville. Et l'agriculture périurbaine, aujourd'hui, c'est pas uniquement un résidu, c'est pas un reste qui a survécu à la pression de la ville, mais l'endroit où on est en ce moment, qui est une chèvrerie qui a été créée finalement il y a 2 ans, ça vous montre que l'agriculture périurbaine, c'est aussi quelque chose qui est en plein renouveau. Et les logiques de niche commerciale, donc là en l'occurrence le choix des Halles de Bocuse, le choix des petits marchés particuliers, ça participe au redéveloppement de l'agriculture périurbaine et au renouvellement. Il y a des nouvelles personnes qui n'étaient pas forcément dans l'agriculture qui s'installent dans l'agriculture. Et en fait, il y a des nouvelles pratiques qui ont lieu sur des terres agricoles. Mais que ce soit dans le périurbain ou que ce soit en général au niveau de l'agriculture, les jeunes qui s'installent, qui éventuellement ont déjà fait un autre métier avant, ils n'ont pas la même perception des choses et pratiquent une agriculture qui est différente de celle d'avant. C'est ni moins bien ni mieux. Mais bon.
C'est une agriculture, enfin, dans le sens amélioratif du terme, de chef d'entreprise. Donc avec des vraies stratégies de communication, des vraies stratégies de marketing, une agriculture qui est pensée d'un bout à l'autre de la chaîne, alors que, comme ce qui peut se faire un peu à l'ancienne, entre guillemets, on pense plus à la production et on reste un agriculteur producteur et on n'a pas cette dynamique de chef d'entreprise.
Et donc en fait la proximité avec la ville, elle agit comme une forme de garantie le temps que l'exploitation démarre. Alors que dans des logiques plus anciennes, le métier à la ville était vécu vraiment comme un complément à partir de l'exploitation qui était l'activité principale. Ici parfois c'est plutôt même l'activité agricole qui est vécue comme un complément à une activité urbaine.
La proximité de la ville a une grande importance pour les agriculteurs et les agricultrices parce que contrairement à l'agriculture entre guillemets à l'ancienne où c'était souvent le noyau villageois qui formait l'essentiel de la vie sociale, les agriculteurs et agricultrices d'aujourd'hui ont des loisirs de citadins. Pour contrecarrer un peu l'image négative de cette jeunesse agricole du bonheur et dans le pré par exemple, la proximité de la ville est un bon tremplin pour pouvoir fréquenter beaucoup de gens, avoir une vie qui permette aussi d'avoir un conjoint qui ne serait pas dans l'agriculture. Et trouver un conjoint.
Pour les urbains, la vision caricaturale qu'on a du monde rural, c'est celle qu'on peut trouver dans des émissions de télévision comme L'amour est dans le pré sur M6. Est-ce que le type d'exploitation qu'on a ici, proche de la ville, plus en contact avec le consommateur, peut contribuer à changer cette perception?
Oui, en fait, à mon avis, l'un des volets que certaines exploitations développent et que d'autres pourraient développer, c'est le volet pédagogique. Et c'est vrai que la proximité avec la ville, elle pourrait favoriser ce type d'échange entre un exploitant et une classe et susciter des vocations aussi au niveau collège et lycée, c'est certain.
On y réfléchit dans les projets d'avenir avec ma sœur à développer une ferme pédagogique, bien sûr, quand le moment sera venu, quand... Le fonctionnement sera bien rodé. C'est effectivement quelque chose qu'on envisagerait. Et pour revenir sur la question de l'image de l'agriculteur, c'est vraiment effectivement quelque chose qui change. La première fois que ma sœur a été livrée la personne des Halles Bocuse, Il lui a dit « Ah bah, l'agriculture a bien changé aujourd'hui ». Ça a été la première réaction pour montrer qu'en fait, oui, cette jeune fille élégante qui était devant lui, c'était bien une agricultrice et il s'attendait peut-être à voir quelqu'un débarquer en bottes. Et dans cette phrase-là, on perçoit vraiment la rupture, le changement radical de profil aussi de ces agriculteurs.
Oui, qui sont aussi des agricultrices, ta sœur.
Et qui sont aussi des agricultrices.
Et ça, c'est emblématique aussi du renouveau de cette activité. You're beautiful, you're beautiful,
you're beautiful, it's true. On a commencé notre périple en partant de la ville et la première conclusion qu'on a tirée, c'est que la question du périurbain, elle était surtout approchée par la géographie urbaine. Est-ce que c'est un enjeu aujourd'hui pour la géographie rurale de se réapproprier cet espace comme terrain d'étude, ou est-ce que finalement elle l'a jamais vraiment perdu ?
Moi je pense qu'on l'a jamais vraiment perdu, c'est juste des points de vue différents, et peut-être que le travail c'est de réussir à moins cloisonner ou à décloisonner les recherches qui se font. Et
l'enjeu c'est aussi de garder, voire de redévelopper les études qui ont comme entrée l'agricole. Qui est, si on observe les thèses dans les années 2000 qui ont été soutenues, c'est une entrée qui n'a jamais été perdue de vue, mais il y a beaucoup de travaux autour des questions de l'habité, de l'habitat, et il faut vraiment, à mon avis, pour que la géographie rurale se investisse pleinement le champ du périurbain, considérer et reconsidérer cette question de l'agricole en périurbain qui fait vraiment la spécificité des paysages.
Donc cette approche spécifiquement agricole qui analyse par exemple les circuits courts est quelque chose qui est réapparu d'une certaine manière en géographie, mais qui a été en géographie rurale, mais qui a été pendant un moment occulté.
L'approche par la commercialisation, elle a toujours été plus ou moins là, et surtout à partir des années 70 où les géographes ruralistes ont étudié l'agriculture et les transformations du monde agricole sous l'angle des filières. Et aujourd'hui, il y a une réappropriation de cet objet par les circuits courts qui ont cette spécificité d'être vraiment à l'interface entre l'urbain et le rural. Et c'est un nouveau point d'entrée pour appréhender les réalités agricoles, mais d'une certaine mesure du point de vue de la ville. Donc on va étudier les circuits courts et puis on va remonter la chaîne en quelque sorte. On va aller voir quel type d'agriculture ça favorise et puis aussi en aval comment ça touche le consommateur et comment ça crée ou non des groupes, des nouvelles relations entre les agriculteurs et les consommateurs. Donc c'est vraiment intéressant comme objet parce qu'on a vraiment, on est à cheval vraiment sur urbain-rural.
Donc la géographie urbaine peut s'occuper des espaces ruraux, mais d'une certaine manière, la géographie rurale s'occupe aussi des espaces urbains.
Tout à fait, et ça c'est une problématique qui est très importante, il me semble, dans toute une réflexion sur la ville durable, dont on parle beaucoup et qui est appréhendée essentiellement par la géographie urbaine. Mais du coup, les ruralistes ont aussi quelque chose à dire sur ce nouveau modèle de la ville dense, de la ville compacte et aussi d'une ville où il y a plus de mixité et où les relations entre agriculteurs et consommateurs, ça pourrait être un de ces éléments de mixité.
La géographie rurale is not dead.
Non, still alive.
Vous l'aurez donc compris, si aujourd'hui 95% de la population française vit sous l'influence d'une ville, selon l'INSEE, les géographes ruralistes conservent des clés d'analyse déterminantes pour comprendre où est passé le rural et aussi ce qui se joue dans l'urbain.
C'est la fin de cette belle balade dans l'Ouest lyonnais. Un grand merci à Camille et Julie, ainsi qu'à Myriam et à sa sœur. Nous en profitons pour recommander aux gourmets lyonnais les fromages qu'elles produisent, en vente au Hall Bocuse, mais aussi sans faire trop de publicité chez les nouveaux commerçants. Vous pouvez vous rendre directement à la ferme aussi pour caresser les chèvres et rencontrer les agricultrices. Et pour cela, vous trouverez de plus amples détails sur le site de l'émission.
Vous venez d'écouter Les Grands Espaces, une émission produite et réalisée par Rémi Desmoulières et Thibaut Sardier, avec à la technique, dans les studios de Transistor, Mathias Chassagneux et Mehdi Darou. Merci à eux. Et merci de votre fidélité. À bientôt pour vous faire à nouveau entendre Les Grands Espaces.